C'est 23.
Bienvenue à la commission Normando-Ferrandez.
Alors, cher commissaire, aujourd'hui, 15h, c'est le premier point de presse solo du nouveau directeur de la santé publique, Dr Boileau, pour montrer son indépendance, puis il dit qu'il va faire ça à quelques occasions. Alors, est-ce que ça va peut-être aider, à contrer ce climat de méfiance qui existe à l'endroit des mesures du gouvernement? Luc?
Oui, un peu, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Ça veut pas dire que... Bon, évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça veut pas dire que, juste parce qu'une conférence de presse séparée, il y a indépendance de la santé publique. On s'entend que les conférences de presse, ça peut aussi être contrôlé par le cabinet. On peut lui dire, ben, tu vas parler de ça puis de pas ça, parce que ça reste un sous-ministre pour l'instant. Hein. Il est sous l'autorité de la santé, du ministère de la Santé, puis du premier ministre. Alors, c'est une première forme d'indépendance. Ce qui est bien, c'est que les journalistes vont pouvoir poser des questions sans que M. Dubé ou M. Legault fassent des gros yeux. Non, M. Arruda ne peut pas répondre à cette question-là. M. Arruda voudrait dire qu'il considère que... M. Arruda n'était pas toujours dans une situation confortable, on peut dire. Et là, il va trouver ses aises, il va pouvoir répondre aux journalistes. On verra le style du bonhomme aussi, parce que peut-être que M. Boileau est un homme de peu de mots, on ne sait pas, on verra. Alors, par contre, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Premièrement, il faut retirer la santé publique de son rang de sous-ministre. Il y a plein d'institutions dans un gouvernement qui sont... utiles au gouvernement, mais qui ne sont pas sous la structure hiérarchique, sous le premier ministre. Par exemple, l'ombudsman ou le contrôleur ou le vérificateur, ils sont totalement indépendants. Ils peuvent faire des critiques contre le gouvernement, ils peuvent répondre aux questions d'opposition, et ils font plusieurs choses. D'abord, ils déposent un rapport annuel en séance plénière. En séance plénière, ça veut dire que là, on dit pas « toi, t'es un libéral, puis toi, t'es un péquiste, puis toi, t'es un caquiste ». C'est tout le monde occupe la même salle, l'Assemblée nationale. Je sais pas si ça se passe au Salon Rouge à Québec, mais en tout cas, occupe une salle, puis là, ils peuvent poser des questions. Et donc, les questions ne sont pas dirigées par le premier ministre. L'autre affaire, c'est que lui peut décider de ses propres mandats de recherche, ou alors il y a un droit d'initiative, ou alors l'opposition aussi a un droit d'initiative en disant on voudrait que la santé publique travaille là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Et là, après ça, c'est décidé, comme dans une commission, par exemple, au consensus de la commission. Alors ça, c'est des mesures qui permettent de l'indépendance, qui iraient bien au-delà de la simple conférence de presse séparée.
Moi, j'ai envie de vous dire, il est temps de sortir la politique de la santé publique. Parce que en matière de perception, puis tu y as référé, Luc, qu'on a eu depuis 2 ans l'impression que la santé publique était une organisation au service du gouvernement, alors que la santé publique a besoin de cette indépendance. J'ai envie de vous dire, c'est urgent, en fait, qu'elle affirme et qu'elle exprime son indépendance, oui, par une conférence de presse en solo. Pourquoi à ce moment-ci? Parce que tu as référé, Paul, la méfiance de plus en plus grande ou l'espèce de sentiment de lassitude par rapport à l'incohérence perçue de certaines mesures sanitaires fait en sorte qu'on remet en question non seulement la légitimité de certaines décisions du gouvernement, mais aussi la crédibilité de l'institution qui est la direction de la nationale de la santé publique est remise en question. Alors, j'ai envie de vous dire vivement cette conférence de presse en solo. Parce que la santé publique, si elle veut conserver sa crédibilité, doit arrêter de trop s'associer au gouvernement. Et en fait, cette espèce de, comment dire, d'asservissement qu'on a senti là depuis 2 ans, puis je sais qu'il y a des gens de la santé publique là qui vont être en total désaccord avec ce que je dis, mais là, je suis dans les perceptions. Dans la réalité, M. Arruda, Dr Arruda, n'a cessé de nous dire depuis 2 ans que non, la santé publique est indépendante, mais évidemment, on a eu raison d'en douter depuis ces 2 dernières années. Ça, c'est de la perception et elle est importante parce que on dit toujours en politique, la perception, c'est la réalité. Alors, le Dr Boileau, qui est maintenant le nouveau patron de la santé publique, a cette responsabilité de garder une distance saine entre le politique et la santé publique. Tu réfères à l'organisation des choses, Luc, je trouve ça fort intéressant. Pourquoi ne pas nommer, par exemple, dans le futur, le directeur national de la santé publique aux 2/3 de l'Assemblée nationale? Un peu comme on le fait, comme tu l'as dit, avec d'autres mandats, d'autres fonctions, commissaire à la santé. Maintenant, on le fait pour certains, le chef de l'UPAC, par exemple. C'est comme ça, maintenant.
Je vais donner un exemple. Oui. quand on a eu, au début de la pandémie, là, en tout cas vers le printemps, un débat sur le port du masque. Et on était à l'époque en pénurie, rupture de stock, les approvisionnements étaient difficiles. Puis je me souviens, parce que je posais la question au Dr Arruda, j'ai dit, c'est un avis de santé publique que vous donnez que, concernant le masque dans le métro. Puis il m'avait dit, puis j'avais retenu ça, la santé publique, c'est la science, mais c'est aussi le côté pragmatique. Mm-hmm. Tu sais, le genre de recommandation que tu fais pas parce que tu sais que tu n'es pas capable de la faire appliquer.
Ben oui, c'est ça. On n'en a pas, donc on n'en a pas besoin.
C'est ça. Tu comprends?
C'est ça. Mon père aussi, quand il faisait très mal la cuisine, il disait tout le temps, c'est peut-être pas cuit, mais c'est chaud. Ben, c'est ça.
C'est un peu ça.
Oui, ça, c'est pas
en pénurie. Ça. Ça, c'est dans les périodes de pénurie. Mais...
Tu sais, prends le cas de la contribution santé, là. C'est le directeur de la santé publique. Est-ce qu'il y a un mot à dire? C'est pas une mesure sanitaire, ça.
Bon, là, ça touche un bon point. Premièrement, il faut que... c'est le gouvernement qui gouverne. Donc, le gouvernement peut très bien dire, moi, cet avis-là, là, je... C'était pratique pour les masques. Hein. C'était pratique de dire ça vient de la santé publique, mais c'était pas bon parce que ça salissait la santé publique. La santé publique aurait dû dire voici mon avis sur les masques, puis après ça, le gouvernement a dit OK, c'est un bon avis, mais nous, on n'a pas de masque. Fait qu'on va attendre une semaine. ça aurait été beaucoup plus clair. Puis ça aurait pas détruit la réputation de la santé publique. Pour autant voilà. Que la santé publique ait eu le bon avis à ce moment-là, parce que la santé publique, et ça, c'est un point que je voudrais apporter, se trompe. Ça arrive que la santé publique se trompe, que fasse pas toujours des bons coups. Un des bons coups, par exemple, là, c'était le délai entre les deux doses. Le délai entre les deux doses de vaccin, ça a permis d'étirer la protection. Peut-être qu'à ce moment-là, l'opposition, si on avait adopté le modèle de l'indépendance puis de la possibilité de l'opposition de poser des questions, on serait tombé à bras raccourcis sur la santé publique puis aurait rendu cette mesure-là, aurait été très, très critique. Mais il y a des moments où la santé publique s'est trompée, puis une pression de la population, puis une pression... comme tu parles du masque, puis il y avait aussi à ce moment-là la circulation du personnel entre les établissements, la santé publique s'obstinait à avoir un modèle où, vraisemblablement, la contamination venait de l'extérieur. Puis tant que tu n'avais pas fait de voyage, tu n'avais pas la COVID, ou si tu n'étais pas proche de quelqu'un. Et c'était une grave erreur. Mais justement, si tu la mets sur le spot, si tu la mets sur la place publique, puis tu poses des questions, puis tu confrontes, puis tu l'obliges à regarder ce qui se passe ailleurs, c'est mieux que s'il est caché dans le bureau du sous-ministre.
Oui, mais en même temps, au début, la première vague, on n'avait pas toute l'information. Sauf que cette histoire de masque, là, elle a fait très, très mal à la santé publique, à sa réputation. Un point tel que, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, dans le journal Le Soleil, il y a 9 experts, dont Nima Machouf, qui ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils ont affiché leur scepticisme par rapport à la décision de la santé publique d'autoriser l'ouverture, la reprise des classes, là, d'autoriser les enfants à retourner en personne en classe. Et dans cette lettre, il est écrit, et pour moi, c'est très, très fort et très révélateur, ils écrivent « Les médecins de santé publique doivent être tenus aux mêmes normes de qualité d'éthique que les médecins travaillant en milieu clinique. » Ça, ce que ça veut dire, c'est que même des experts en épidémiologie et microbiologie, tout ça, c'est pas un mot facile à dire, j'en conviens, mais dans le fond, questionnent la façon dont les médecins qui travaillent à l'intérieur à la santé publique prennent leurs décisions. Alors, cette espèce d'impression que le politique, dans le fond, contrôlait la direction de la santé publique et rapidement s'est imprégné et c'est très mauvais parce que la santé publique, c'est le phare, c'était notre phare durant la tempête. On a besoin d'avoir des avis indépendants, neutres, dénués de toute, effectivement, partisanerie ou de toute considération politique. Et Paul, quand tu parles de la contribution santé, ça n'a rien à voir avec la politique, absolument rien à voir avec c'est-à-dire la santé publique. Par contre, ça a tout à voir avec la politique. Et dans ce sens-là, c'est vraiment une très bonne décision qu'a pris la santé publique, qu'a pris le docteur Boileau de se distancer du gouvernement. Je pense que c'est salutaire pour la suite des choses, étant entendu que la santé publique va être appelée à jouer un rôle stratégique dans le futur, étant entendu qu'on va vivre avec le virus probablement plusieurs années.
Après la pause, deuxième sujet qui suscite les passions, la manif des camionneurs, là, ce convoi vers la liberté qui va aboutir à Ottawa.
Vous écoutez Nathalie Normando et Luc Ferrandez. Vous écoutez la commission Normando-Ferrandez.
Alors, on va parler de cette manifestation qui est prévue à Ottawa sur la colline parlementaire de camionneurs. Puis disons que plus ça passe, plus les sujets sont nombreux. On n'est pas juste dans le vaccin obligatoire. Il y en a d'autres qui contestent la légitimité du gouvernement. Autrement dit, ça ressemble à une montée de gens qui pourraient peut-être s'inspirer des événements du Capitole. Et avec, évidemment, toujours en toile de fond, l'effet que ça a sur la chaîne d'approvisionnement. Nathalie.
Bien, Paul, c'est bien triste à dire, mais la bataille des camionneurs, elle est perdue d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris en otage par des organisateurs qui sont associés à la droite ou encore à des mouvements complotistes. Depuis le 22 janvier dernier, là, c'est samedi dernier, le département de la sécurité intérieure aux États-Unis exige que toutes les personnes qui franchissent la frontière terrestre, qui ne sont pas américaines, font face à démonstration qu'ils et qu'elles sont vaccinées. Alors, dans ces conditions-là, même si demain matin, le gouvernement canadien décidait d'annuler la vaccination obligatoire pour les camionneurs, ben, si tu traverses la frontière américaine, tu serais quand même obligé de faire la démonstration que tu es vacciné. Alors, moi, je me pose la question, il est où l'enjeu, là? Il n'y en a pas d'enjeu, là. C'est vaccination obligatoire parce que c'était ça au départ, là. La contestation a pris forme parce que les camionneurs étaient fâchés de se faire imposer la vaccination obligatoire. Camionneurs, en passant, faut-il le rappeler, qui sont vaccinés à 90%. Fait qu'il y a 10 % qui ne sont pas vaccinés. Alors, oubliez ça, là. Même si le Canada reculait, là, vous traversez la frontière américaine depuis samedi dernier, vous devez faire la démonstration que vous êtes vacciné, sinon vous n'entrez pas.
Moi, je trouve ça amusant parce qu'il y a un peu un esprit, c'est la grosseur de mon troc qui témoigne de l'importance de mon opinion. T'sais, un camionneur, c'est pas comme un danseur au Grand Ballet canadien, là. Ça n'a pas la même... T'sais, c'est un gros camion, là, tu sais. Fait que là, ça fait du bruit. Hey. Il paraît que ça fait 20 km de long, la manip.
Oui, oui, absolument.
Tabourette, c'est quelque chose.
C'est long, là. Oui, absolument.
Avec les drapeaux.
C'est parti depuis dimanche dernier, là, de la Colombie-Britannique, imagine.
C'est incroyable. Ben, c'est des gars qui sont habitués de faire de la route, tu me diras.
Oui.
Mais,
et des filles, oublie pas qu'il y a des filles dans ce milieu.
Oui, il doit y avoir des filles aussi, oui. Bon, faut se rappeler d'où ça vient, la vaccination obligatoire. Hein. L'an passé, tout le monde faisait pression sur le fédéral pour contrer les entrées et les sorties du pays. Il y a une centaine d'experts, des virologues, des immunomachins, etc., des biologistes qui ont fait pression puis ont demandé fermement au gouvernement de contrôler les entrées et sorties, y compris pour les travailleurs essentiels. Puis on s'était moqué du fédéral en disant « il est trop lent à prendre des décisions », puis il y avait eu toute l'affaire aussi des snowbirds puis tout ça. Et les syndicats demandaient à ce moment-là, et notamment le Teamster demandait, les Teamsters demandaient que les camionneurs soient protégés pas juste par des tests rapides, par de la vaccination. Parce que, à cette époque-là, les États-Unis avaient un taux de contamination beaucoup plus élevé que le nôtre. Et ils disaient, Teamster, c'est dangereux pour nos employés d'aller là-bas, faire décharger le camion, le charger, etc., être en contact avec des employés souvent qui n'étaient pas vaccinés et qui étaient contaminés, parce que beaucoup d'employés là-bas travaillaient même s'ils étaient contaminés parce qu'il n'y avait pas les mêmes programmes de protection. Et là, on a fait pression. Alors, le gouvernement a réagi en obligeant le personnel des transports aériens, transports ferroviaires et camions à se faire vacciner. Mais ça a pris du temps parce que les deux premiers, ça a été assez vite, mais les camionneurs, on leur a donné plusieurs chances de le faire
mais
parce
oui.
qu'ils sont si nombreux que... Bon, et là, ça arrive maintenant. Sur les 10 millions d'entrées au Canada, il y en a en 2020, depuis mars 2020, à l'époque de la pandémie, la moitié des entrées étaient des camionneurs. Donc, c'était 4,6 millions. C'est pas rien, là. C'est un énorme échange qu'il y a entre les deux pays. Et donc, c'est ça l'origine. Maintenant, ça a changé parce que la différence de vaccination entre les deux, la différence de diffusion du virus est assez amoindrie entre les deux pays à cause d'Omicron qui est rentré un peu partout. Est-ce que là, à ce moment-là, on pourrait dire, est-ce que les camionneurs sont encore des vecteurs de diffusion du virus comme ils l'étaient au moment de la prise de décision? Peut-être pas. Peut-être que ça a changé un peu. Mais. Premièrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre variant. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir des caractéristiques différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des niveaux de vaccination extrêmement différents entre le Canada et les États-Unis qui vont justifier. Et on peut pas, le gouvernement maintenant ne peut plus reculer. Il pourrait dire, compte tenu de la situation, maintenant je vais reculer. Non, il ne peut plus. À cause de l'attitude, à cause du discours pseudo-révolutionnaire des camionneurs, là, leur donner raison, ça serait donner tort aux 90% qui se sont fait vacciner, puis ça serait donner raison à un discours totalement extrémiste.
Mais pas juste pour ces raisons-là, Luc, parce que le département de la sécurité intérieure
oui.
a dit, oubliez ça, vous pouvez pas entrer si vous êtes pas vacciné. Fait que moi, je me dis, ouais, c'est quoi, il y en a pas d'enjeu. Mais il y a pas d'enjeu pour les camionneurs. Par contre, les mouvements, là, on parlait du, j'entendais entendait avec le journaliste de la presse tout à l'heure, Tristan Péloquin, Paul, Pat King, Peter Downing, Tamara Litch, ça, c'est tous des gens qui sont impliqués dans cet événement. Tamara Litch, imaginez, le GoFundMe, ils ont créé un GoFundMe. Au départ, ils devaient récolter 1 million de dollars. Ils en sont à 5,7 millions de dollars. Ils ont récolté ça en à peu près 10 jours. C'est hallucinant. Elle, Tamara Litch, chez qui? Elle est membre du Maverick Party. Le Maverick Party, c'était le parti qui est né du Wexit dans l'Ouest canadien. Le Wexit qui plaidait pour l'indépendance des provinces de l'Ouest. Pat King, Peter Downing, eux, ils véhiculent des théories conspirationnistes. C'est eux les fondateurs du Wexit. Ils organisent le convoi. Fait que les camionneurs doivent se rendre compte qu'actuellement, ils sont manipulés par des gens qui ont d'autres intérêts politiques obliques que ceux que poursuivent certains camionneurs. Quand j'ai entendu Dan Robert à ton micro un peu plus tôt, Paul, dire « Ben non, il n'y a plus question de vaccination, là, on se bat pour la liberté, on a une obligation morale de se battre pour la liberté. » Pardon, on a-tu des nouveaux porte-parole au Canada pour la défense de nos libertés fondamentales?
Non, mais c'est parce que...
C'est en train de déraper, excusez-moi, là, c'est en train de déraper.
Mais je regardais les courriels rapidement, là, tantôt, là, et c'est le mot d'ordre. Là, on décide de plaider la fin de toutes les mesures, de toutes les contraintes, de toutes les obligations. Ils veulent pas juste avoir l'air de camionneurs qui, je dirais, s'occupent de leur paroisse en disant on peut pas faire notre job parce qu'il faut être vacciné. Là, on a décidé. Disons que le spin s'est élargi depuis les derniers jours.
Ben, deux choses là-dessus. Premièrement, ils vont finir par avoir raison parce qu'effectivement, les contraintes vont toutes être enlevées. Puis ils vont dire yes, on a gagné. C'est un phénomène qui arrive souvent, ça. Mais ça, première chose. Deuxièmement, c'est que je pense qu'ils savaient qu'ils étaient marginaux avec la vaccination, puis ils se sont rendus compte que ça avance. Mais ils se sont drapés dans le costume du dernier Gaulois. Puis de dire... Puis d'ailleurs, on les voit souvent au Québec comme au Canada avec le drapeau du Québec ou le drapeau du Canada. Et c'est nous... Nous sommes les derniers représentants des Canadiens libres, des Canadiens qui ne se font pas avoir par l'État. Et... C'est un message de dernier Gaulois, c'est un message de résistance. Peut-être que ça correspond bien aussi à l'image qu'on se fait du camionneur tout seul dans son camion, franchissant des milliers de kilomètres. Pas sûr que cette image-là va non plus réussir à influencer la population.
Mais d'une part, puis d'autre part, là, tu vois l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met les camionneurs tous dans le même panier, alors que ce n'est pas le cas, parce que c'est un mouvement qui divise, c'est une initiative qui divise chez les camionneurs. L'autre chose, ben, savez-vous quoi? On va en partir un mouvement, Luc, toi et moi, Luc. On va demander au gouvernement, non, mais d'éradiquer le coronavirus. On va dire au gouvernement, faites disparaître le virus, là. Nous, on n'en peut plus, là. Ça n'a plus aucun sens. Non, mais je veux dire, à un moment donné, je comprends que les gens sont fatigués, qu'on est à bout de souffle. On est fatigués. Mais, là, ça dépasse l'entendement que des camionneurs s'érigent en espèces, de sauveurs de la nation canadienne. Parce que, dans le fond, les motivations de ces organisateurs associés à la droite, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est déstabiliser le gouvernement de Justin Trudeau. Mm-hmm. Ils veulent ébranler les colonnes du temps. Puis ce que je trouve triste, c'est que les conservateurs... Exactement. Oui. Et c'est totalement irresponsable.
Bien, ça va aussi faire baisser leur vote. C'est une erreur stratégique importante. Mais tu sais, la lumière va venir d'ailleurs. Je voudrais faire un lien avec le précédent sujet.
Parles-tu de la lumière au bout du tunnel?
Oui, le petit tunnel. Hein,
vas-y, mon Luc.
Ben, en fait, le Danemark a complètement déconfiné hier. Le Danemark, qui avait confiné avant Noël, là, il n'a pas juste déconfiné, il a enlevé toutes les mesures. Il a dit, OK, finalement, avec la vaccination, on est confiant qu'on va y arriver. Et donc, ce que les camionneurs demandent, là, la santé publique l'a donné au Danemark en disant, non, ce variant-là n'atteint pas l'essentiel de la population vaccinée. On retire tout. Et peut-être que la lumière va venir de là, c'est-à-dire d'une vraie discussion scientifique et technique, pas d'une pression multi-étagée, idéologique qu'on arrive mal à comprendre.
Merci à tous les deux. On va se retrouver demain, vendredi, puis on aura le rapport de la commission, c'est clair.
C'est 23.